Radio Prague, les informations.
Le doyen de l'École supérieure d'économie de Prague accuse la commission d'accréditation de complicité dans le scandale de Polzen. Le bal de l'Opéra d'État en présence de Michel Mercier ce samedi et la Fed Cup 2000, un point partout entre la République tchèque et l'Allemagne. Bonsoir. Les représentants de l'École supérieure d'économie de Prague, la VCE, accusent la commission d'accréditation d'être co-responsable du récent scandale des diplômés express de la faculté de droit de l'université de Polzen. C'est cette commission d'accréditation qui décide quelles sont les disciplines enseignées dans chaque université. Selon une analyse élaborée par le doyen de la VCE, Jerzy Schwartz, la façon dont elles sont attribuées sont négociées de façon douteuse. Il a ainsi remis en cause l'indépendance de la commission d'accréditation. C'est le président du Parti des Verts qui sera le leader de la campagne pour les législatives dans la capitale tchèque. Il a été élu par 90% des délégués de la section pragoise de son parti. Son prédécesseur à la tête des Verts et ancien ministre de l'Environnement Martin Bursik a jusqu'à dimanche pour faire savoir s'il se présentera ou pas à ces élections législatives. La qualité de l'air en Moravie-Silésie, polluée par un épais smog depuis plusieurs semaines, s'est améliorée, mais elle est toujours insuffisante. La concentration de poussière atmosphérique dépasse encore dans certains endroits le niveau maximal autorisé de 50 microgrammes par mètre cube. La semaine dernière, le smog avait dépassé de 11 fois le niveau maximum. Les responsables locaux avaient appelé le gouvernement à se pencher sur la situation au plus vite. C'est ce samedi soir qu'aura lieu le bal de l'Opéra d'État qui accueillera des invités de marque et notamment l'actrice française Michel Mercier, l'interprète dans les années 60 du personnage d'Angélique, marquise des Anges, dans la série de films éponyme. Seront également présents le Premier ministre Jan Fischer, le réalisateur tchèque Miloš Forman et l'acteur britannique Michael York. Les fédérations tchèques et slovaques de football veulent discuter sur la possibilité d'un championnat commun qui serait ainsi plus fort et plus compétitif. Le vice-président de la fédération tchéco-morave Miroslav Křiž s'est ainsi rendu à Bratislava ce vendredi pour examiner cette proposition formulée par la fédération slovaque. Křiž l'estime à un stade initial mais réalisable. Le président de la fédération Ivan Hašek soutient également le projet qui recréerait la situation d'avant la séparation de la Tchécoslovaquie en 1993. Néanmoins, l'UEFA a toujours rejeté toute proposition similaire. Lucie Šafářová a perdu le premier match de simple qui l'opposait à l'Allemande Anna-Lena Grönefeld dans le premier tour de la Fed Cup 2010 où la République tchèque et l'Allemagne s'affrontent ce week-end à Brno. Le deuxième simple a opposé samedi après-midi Petra Kvitová à Andrea Petkovic et c'est la Tchèque qui a enlevé le deuxième point. Les Tchèques et les Allemandes sont donc à égalité avant d'entamer les matchs de double. Les chances des deux équipes sont équilibrées et ça se jouera à peu de choses, avait déclaré vendredi le capitaine de l'équipe féminine de tennis Petr Pala. Enfin, on termine avec la météo. Dimanche, le temps sera couvert avec quelques chutes de neige à l'extrémité est du pays. Les températures sont à nouveau en baisse avec des maximales entre moins 7 et moins 3 degrés et nous fêterons les Véronica. Voilà, c'était le bulletin d'information présenté par Anne Fervelure.
Rencontre littéraire, Václav Richter.
Un semeur de silence, de transparence et de miséricorde, tel apparaît aux yeux de la romancière Sylvie Germain, le poète et graveur tchèque Bohuslav Hrejnek. La personnalité de cet homme et artiste, qui pourrait être considéré comme une incarnation de la modestie, a éveillé chez la romancière française une sympathie et un intérêt profond. Elle lui a rendu hommage par un livre qui situe ce poète dans son milieu, dans sa maison de Petrkov, un hameau du plateau tchéco-morave. Simon Choa s'est porté sur cet auteur encore très méconnu et si peu accessible au lecteur français, explique Sylvie Germain, c'est parce que la force, la grâce qui émane tant de son œuvre que de sa personne invite à s'arrêter sur son seuil. Il y a des dons qu'il serait désolant de négliger, des halos de lumière qu'il serait une carence de ne pas regarder lorsqu'ils se présentent, fût-ce de loin, sur notre chemin. Or, Reynec fut prodigue en dons impondérables, dons de patience, d'intelligence subtile du cœur humain, de ses tourments et de ses rêves, dons de douceur et d'exigence de rigueur. Et cette prodigalité d'être, c'est dans sa terre du fond de la Bohême orientale qu'il l'a puisée, travaillée, et c'est depuis sa demeure qu'il l'a dispensée jour après jour. Ils ne pouvaient pas se rencontrer. Sylvie Germain est née trop tard. Elle a raté sa rencontre avec Reynec, né en 1892 et disparu en 1971. Mais la mort n'a achevé que l'existence physique du poète qui crée des valeurs immatérielles. Elle ne peut pas faire mourir ce qui est immatériel et impérissable. C'est la consolation suprême des véritables artistes. Sylvie Germain a pu connaître Reynec grâce à ses fils, aux personnes qui lui avaient été familières, à la ferme de Peterkoff, mais surtout à travers son œuvre, ses poèmes et ses gravures.
C'est vraiment l'œuvre de quelqu'un d'une totale intégrité, d'un immense courage, et c'est ça que j'aime finalement. Je trouve que les plus belles formes de courage ou d'héroïsme, c'est pas ceux qui sont avec flanflan militaire ou grande exposition de sa propre bravoure, c'est souvent ceux qui se jouent comme ça dans l'ombre un petit peu. Et Reynec était un homme de l'ombre, c'était un homme infiniment discret, et tenu comme illuminé et porté toute sa vie par une foi très profonde. Même il y a une dimension mystique dans la foi de Reynec. Il a traversé une des périodes de l'histoire les pires qui soient, entre la guerre, l'occupation des nazis et puis le communisme, ce qu'il a vécu lui et sa femme, Suzanne Renaud, cette poétesse française qui, elle, a été assez brisée par tout ça.
Dans son livre intitulé « Bohuslav Reynec à Peterkoff », Sylvie Germain promène le lecteur dans les lieux qui portent encore l'empreinte du poète. Elle évoque le paysage dans lequel le poète vivait, mais elle cherche aussi à recréer ce que nous pourrions appeler son paysage spirituel. Elle parle de sa poésie, de ses gravures, de son admiration pour la littérature française, de ses traductions. Elle répertorie les éléments essentiels qui créent l'univers, dans lequel infusait la poésie comme la lumière qui rend le monde visible, mais aussi, comme elle dit, lisible et scriptible, où la neige, élément qui a joué un rôle important dans la vie physique du poète pendant de longs hivers à Peterkoff et qui est entré aussi dans ses poèmes et ses gravures. Le chapitre intitulé « Métamorphose d'un lieu immuable » retrace la vie de ce fils de paysan qui, malgré son intelligence et son talent, ou peut-être justement à cause d'eux, est resté pendant toute sa vie, lui aussi, paysan proche de la terre, vivant dans un dénouement presque biblique et gardant, malgré les oppressions de toutes sortes, une grande liberté.
Je trouve que l'œuvre qu'il a réussi à créer à l'aube, avant d'aller nourrir ses cochons, assis près de son grand poêle, en train de graver avec vraiment les moyens du bord, il avait presque pas de matériel, il était assez autodidacte dans ce domaine-là, et c'est vraiment une manière chez lui de traduire ce qu'il y avait de plus profond en lui. Donc ces visions extraordinaires, que ce soit le cycle de la passion, que ce soit le cycle de l'histoire de Cervantes, du Don Quichotte, ou dans sa poésie, c'est absolument admirable. Pour moi, il y avait beaucoup de ce qu'on peut appeler, je me méfie des grands mots, de l'âme tchèque, mais disons de l'esprit de ce pays peut-être. En tout cas, moi j'ai été extrêmement touchée par cette œuvre, alors même que mon niveau de tchèque était misérable, maintenant j'en parle même plus, j'ai réussi un jour en lisant, quand j'habitais encore Prague, dans des samizdat d'ailleurs à l'époque, hein, il était interdit de publication, en regardant un livre de poèmes de Reynec, et j'ai été extrêmement touchée. touchée. J'ai même senti qu'il y avait une sorte de consonance avec l'œuvre d'un autre poète que j'adore, le poète autrichien Georg Trakl. Et j'ai appris après, d'ailleurs, qu'il avait traduit Trakl. Donc, vous voyez, c'était comme s'il y avait une force, par la douceur même de la musique de Reinek, qui permettait à quelqu'un, un étranger comme moi, avec une connaissance minime de la langue, d'y être sensible.
Les animaux étaient nombreux à la ferme de Peterkoff, lisons-nous dans le chapitre consacré à la faune qui partageait la vie du poète. Des poules, des pigeons, des brebis, des chèvres, des cochons et des chats. Dans la cour, face à la maison, s'étend une longue bâtisse datant de l'époque baroque. Son plafond est voûté. Ce bâtiment servait de grange, d'étable et d'écurie. Reinek avait à soigner, nourrir tout ce bétail. Dès l'aube, il préparait la pâtée des cochons, puis il s'occupait de tous les membres de son humble arche de Noé. Et l'auteur de raconter le rapport profond qu'il y a le poète et son troupeau de brebis, car être berger était sa vocation suprême. Jamais un rapport de maître à son bétail, de supérieur à inférieur, précise celui Germain, mais un rapport de serviteur à des créatures tout à la fois vulnérables et douées d'une force énigmatique. Un rapport de réciprocité dans le don de présence et celui de nourriture, une nourriture double de la part de l'animal, terrestre et céleste, quotidienne et ancestrale. L'auteur évoque aussi le jardin de la ferme, ce lieu intermédiaire entre la maison et la nature, participant de l'intimité et de l'extériorité, une intimité à ciel ouvert. Elle amène le lecteur dans la cuisine, ce sanctuaire du logis, avec un poêle en faïence, où Suzanne Renaud et Bohuslav Reinek préparaient leur nourriture, se réfugiaient vers la source de la chaleur, mais qui était pour le poète aussi un atelier où il gravait ses eaux fortes et écrivait sa poésie. Aujourd'hui, la maison de Bohuslav Reinek est toujours là. Elle n'a pas beaucoup changé, bien qu'il n'y ait plus de troupeaux ni de volailles. Mais il y a toujours des chats, des tourterelles et tous les oiseaux de passage. Et quand on cherche et quand on est sensible, on arrive à y retrouver aussi l'âme de celui qui, assis près de son poêle, arraché au chaos des impressions et sensations, à l'opacité des éléments, les choses qu'il avait vues, pour les passer au crible de sa méditation, elle les transfigurait en vers concis, en musicalité, en images brumeuses et diaphanes, transformant du même coup la nature en monde, la rumeur en chant, la matière en lumière. Le livre Bohuslav Reinek à Peterkoff de Sylvie Germain est paru aux éditions Christian Pirot. Cette émission vous a été proposée par Václav Richter. Merci à Irena Viernochova, réalisation technique, et à David Rada, prise de son.
Le tchèque du bout de la langue. Guillaume Narguet.
Salut à tous les tchécophiles de Radio Prague.
Ahoj vám všem milovníkům češtiny Rádia Praha.
On entend souvent dire
stane se to jednou za uherský rok.
Ce qui signifie cela arrive une fois par année hongroise. Mais qu'est-ce donc qu'une année hongroise et quelle est sa durée? Ce sont précisément les deux questions auxquelles nous allons tâcher de répondre dans cette émission préparée par Nathalie Franck. Un petit tour sur Internet suffit pour comprendre l'étendue de l'utilisation de l'expression
« jednou za uherský rok ».
Blog, info, site scientifique, les exemples ne manquent pas. Citons-en donc quelques-uns.
« Moc mě mrzí, že se s ní vidím jednou za uherský rok ».
Soit « je ne la vois qu'une fois par année hongroise et j'en suis désolé ». Ou encore
« auto je vhodné tak pro dva lidi, kteří jednou za uherský rok někoho svezou ».
Soit « cette voiture convient pour deux personnes accompagnées d'une autre personne une fois par année hongroise ». Et les exemples sont multiples. Une petite précision lexicale s'impose donc tout d'abord. Les Tchèques disent en effet
jednou za uherský rok
et non pas
jednou za maďarský rok.
Un peu d'histoire et de géographie nous aidera à mieux comprendre. Aujourd'hui en Tchèque, la Hongrie se dit
Maďarsko.
Et bien avant, cette Hongrie a existé jusqu'en 1918, le royaume de Hongrie lié à l'Empire d'Autriche depuis 1867, ce qui formait l'Empire d'Autriche-Hongrie auquel appartenait également la République tchèque actuelle. Et ce royaume de Hongrie, qui comprenait des bouts de territoire des actuelles Slovaquie, Roumanie, Ukraine, Croatie, Serbie, Slovénie ou encore Pologne, s'appelait alors
Uhersko
ou officiellement
Uherské království.
Cette petite mise au point effectuée, venons-en à ce qui nous intrigue. À cet espace-temps indéfini,
Uherský rok,
l'année de
Uhersko,
ou l'année hongroise pour faire plus simple. Paradoxalement, cette année hongroise peut être plus longue qu'une année, mais elle peut aussi être plus courte qu'un mois, selon votre appréciation. En résumé,
jednou za uherský rok,
une fois par année hongroise, signifie pas souvent, voire très rarement. Mais bien entendu, chacun possède une appréciation très différente de ce que des notions de temps comme souvent ou rarement signifient. Cherchons maintenant à découvrir pourquoi les Tchèques emploient cette expression. Selon certaines sources étymologiques, elle pourrait venir du XVIIe siècle, quand les soldats de l'empire de
Uhersko,
bien misérables, attendaient leur paix une fois par an, paix qui arrivait donc une fois par année hongroise. Mais il existerait encore une autre explication selon laquelle la durée supposée du service militaire des soldats hongrois était d'un an, mais qu'elle était dans la réalité sans cesse prolongée et prolongée. Retenez donc l'explication qui vous convient le mieux, et pour la petite histoire, sachez encore que la fameuse paix de ces pauvres soldats hongrois arrivait parfois lors de
Turecké Velikonoce,
soit pendant les Pâques turques, c'est-à-dire jamais. Reste la question de savoir
jak dlouhý je uherský rok,
quelle est la durée de l'année hongroise. Une question qui se pose depuis plusieurs siècles, par exemple au début du XVIIe, un certain
Šimon Podolský
écrivait
Uherský rok musí být prostě stejně dlouhý jako ten náš, jelikož i v Uhrách se právě píše rok 1617. Pokud by byl uherský rok jinak dlouhý, museli bychom najít odchylku mezi letopočty.
Soit l'année hongroise doit être aussi longue que la nôtre, puisque en Hongrie aussi s'écrit l'année 1617. Si l'année hongroise était plus longue ou plus courte, alors on trouverait une différence dans le décompte des années. Et il s'agit là en effet d'un constat logique et plein de bon sens, mais ensuite il y a eu l'empereur d'Autriche qui s'est moqué des Turcs en 1681 en disant
« Turci, ti nás napadnou tak možná za uherský rok. »
Les Turcs, ils nous attaqueront peut-être dans une année hongroise. À la lecture de l'histoire, il aurait peut-être mieux fait de tenir sa langue s'il avait lu
Podolský.
Toujours est-il que l'attaque ayant eu lieu le 12 septembre 1683, on a évalué l'année hongroise longue de 721 jours exactement. Inutile de vous préciser que malgré ces tentatives, les scientifiques ont fini par abandonner l'idée d'évaluer précisément l'espace-temps que représente
Uherský rok
et que le convertisseur d'unité de temps que vous pouvez trouver sur Internet précise bien hors tableau en indiquant
Uherský rok je ustálené slovní spojení, které z fyzikálního hlediska nemá význam.
Soit l'année hongroise est une expression qui d'un point de vue physique n'a pas de sens. Nous voilà donc fixés pour de bon. Enfin, si vous voulez être plus tchèque que les tchèques, sachez également que vous pouvez utiliser un diminutif en
ak,
adorer notamment des pragois, et dire au lieu de
jednou za uherský rok, jednou za uherák.
Et c'est sur cette astuce qui vous permettra de briller en société que s'achève ce Tchèque du bout de la langue, consacré donc à l'espace-temps indéfini qu'est une année hongroise. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, portez-vous donc du mieux possible.
Mějte se co nejlíp.
Portez le soleil en vous.
Slunce v duši.
Salut et à bientôt.
Zatím ahoj.
Courrier des auditeurs. Magdalena Hrozinková.
Bonjour et bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire autour de vos lettres.
Je viens d'apprendre que vous continuez vos émissions en ondes courtes et en suis très heureux, mais j'espère que l'écoute sera meilleure que ces derniers temps.
Écrit Jean-François Mel d'Ars-sur-Moselle. Il n'est malheureusement pas le seul à nous signaler une mauvaise audibilité de nos programmes. Paul Jamais d'Argenteuil se plaint d'une écoute pénible le 10 janvier dernier à 8h30 TU sur 9860 kHz.
Qu'il est agréable de savoir que Radio Prague restera sur les ondes courtes.
Écrit Paul Jamais.
La radio, c'est quand même à l'origine une TSF, une transmission sans fil. Or aujourd'hui, le téléphone est de plus en plus sans fil, alors que la radio est de plus en plus présente sur Internet, voire sur le câble. Les nombreux courriers des auditeurs ont-ils pesé ou non dans la décision de maintenir une diffusion ondes courtes?
Bien sûr que oui, Monsieur Jamais.
Des milliers d'auditeurs répartis dans le monde vont continuer de pouvoir capter et écouter Radio Prague sur ondes courtes et vous vous doutez de la joie qui m'anime en vous écrivant.
Nous confie Jacques Augustin de Rosny-sous-Bois et il poursuit.
Il lui était si regrettable de réduire au silence des voix aujourd'hui libérées depuis la révolution de velours de 1989. Récemment, c'est la musique qu'il a emportée dans vos chroniques avec une présentation en deux volets du groupe Plastic People, c'est-à-dire plus ou moins « Qui vivra verra ». Un profil pas toujours évident à cerner, mais agréable à écouter pour sortir des sentiers battus et partager la fougue des jeunes.
Et puis, un message qui fera plaisir à Guillaume Narguet, car vous nous écrivez, Monsieur Augustin.
Je me permets de souligner que votre chronique de lundi est l'une des rares à être si complète pour le sport. Un véritable amour pour commencer la semaine.
Na jedné staré půdě žijí obyvatelé, které byste tam určitě nečekali.
Zase to děje. Jo, včera, no.
A vůbec nic by jim nescházelo.
Dnes školím draka na to tata.
Troubeček.
Vous écoutez le courrier des auditeurs sur les ondes de Radio Prague. Et toujours avec vous, Jacques Augustin, nous passons au cinéma et plus particulièrement au dessin animé, vous nous demandez.
Cette industrie est-elle toujours populaire en République tchèque et quels sont les principaux films de 2009?
Oui, le cinéma d'animation est toujours très apprécié des spectateurs tchèques et toujours aussi réputé dans le monde. Et pourtant, les cinéastes animateurs tchèques ont toujours du mal à rassembler des moyens financiers pour leurs projets. De créativité, il n'en manque pas. Juste quelques exemples. Filmfarum, en deux volets, est une adaptation des contes du comédien et écrivain Jan Verech, réalisé par Vlasta Pospíšilová et Aurel Klimt. Ou encore les longs métrages de la jeune réalisatrice et plasticienne Maria Procházková, qui marie avec succès la technique du film « classique » entre guillemets avec celle du dessin animé. Enfin, n'oublions pas le récent succès de la télévision publique qui avait produit et diffusé deux mini-séries intitulées « Kresáci, les rats » et doublée par l'un des comédiens les plus connus dans le pays, Bolek Polivka. Pour revenir à votre question, Monsieur Augustin, le film d'animation le plus remarqué de 2009 s'appelle « Drôle de grenier » en tchèque « Napůdě, aneb kdoma dneska narozeniny ». Il a été réalisé par Jiří Barta et raconte l'histoire des jouets et de vieux objets oubliés dans un grenier. Mais détrompez-vous, « Drôle de grenier » n'est pas un dessin animé 3D, mais un film de marionnettes tourné avec des moyens, disons, classiques. Une bonne nouvelle, en décembre dernier, le film est sorti en France.
ciebie Krystianę potkanie. Na noc czasu nimi dostani, jako sprawi Krysi ogarzy. Mare włosy na twarzy, oczy z miziem zakryj duszyma, a nasze sastie pięknie zjeść wiena. U mnie jako sprawi ogarzy, szpiczecie se za twarzy.
Le courrier des auditeurs de cette semaine touche à sa fin. Merci à Françoise Akar qui a joint à sa lettre un article de la presse française sur le Tchèque Zdeněk Štebar, sacré champion du monde de cyclocross. Nous saluons également Agnès Simoni, Félix Guilbeault, Philippe Marsan, Jean-Marie Montplot, Gérard Petrizo et André Biot. Merci pour vos cartes, courriels et rapports d'écoute. Toute l'équipe vous souhaite une bonne fin de semaine. Au revoir.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 9880 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 2230 hours on 7355 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 2230 hours on 7355 kHz. In Eastern Africa, tune in at 0430 hours on 9855 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1400 hours on 11600 kHz. And in North America, you can hear Radio Prague at 21.